Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Nous allons nous focaliser sur les versets 6 à 11, mais on va reprendre la lecture à partir du verset 1. Hébreux chapitre 4, et nous lisons donc à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, on a regardé les premiers versets où l'auteur présente le salut en Jésus-Christ comme le repos pour le croyant. Le croyant vient se jeter, s'étendre sur le Seigneur Jésus-Christ pour trouver le repos de son âme. Il se repose sur l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, une œuvre qui est parfaite, à laquelle il n'y a absolument rien à rajouter. C'est le repos du croyant dans cette vie. Mais il y a plus dans ce passage. Et alors que l'auteur exhorte ses lecteurs à entrer dans le repos de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il regarde bien plus loin. Il regarde au repos final du croyant. Il regarde au ciel. Et pour reprendre le titre d'un livre d'Europresse, si vous ne l'avez pas lu, ou même si vous l'avez déjà lu, je vous invite à le lire et à le relire. Le titre de Richard Baxter, il dit « Le ciel ou le vrai repos ». Et le premier point, donc, c'est qu'il y a encore un repos à venir. Ce terme « repos » apparaît à plusieurs reprises dans ce passage. Il est apparu pour la première fois au chapitre 3, verset 11, où l'auteur a cité le psaume 95 en référence à cette génération incrédule d'Israélites, ceux qui sont sortis d'Égypte. Il dit, je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et là, le repos faisait référence, bien sûr, à l'entrée dans la terre de la promesse, le pays de Canaan. Ce pays de sécurité, de prospérité. Et pendant plusieurs paragraphes, l'auteur de cette lettre nous a exhortés à ne pas suivre l'exemple de cette génération de l'Exode qui s'est plainte contre Dieu, qu'il a accusé de ne pas pourvoir aux besoins, qui a refusé de lui faire confiance. Et en conséquence, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans la terre de la promesse. Ils sont morts dans le désert, entre Égypte et Canaan. Mais au fur et à mesure que l'argument se développe, l'auteur va anticiper une objection. Parce que ses lecteurs pourraient naturellement se demander, oui, effectivement, cette génération infidèle n'est pas entrée dans le repos de Canaan. Mais leurs enfants l'ont fait sous Josué. Alors pourquoi est-ce que vous dites, vous continuez à parler d'un repos qui reste encore? Et l'auteur, c'est ce que l'auteur veut souligner à partir du verset 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le dernier verset de ce passage que je viens de lire, le verset 9, indique clairement que notre repos de salut est quelque chose qui, au final, est futur. C'est quelque chose qui reste encore pour le peuple de Dieu, qui doit entrer dans ce repos. Oui, le repos d'Israël en Canaan était quelque chose de réel, quelque chose de grand, de magnifique, mais ce n'est pas le repos ultime. Ce n'est pas le repos ultime que Dieu a prévu pour son peuple. C'est une image, c'est un type, c'est symbolique. Plutôt que d'accomplir le repos de Dieu, cela symbolisait le repos à venir. Jean Calvin écrit, explique, il dit ceci, « Ce n'est pas le repos final auquel aspirent les fidèles et qui est notre possession commune avec les fidèles de cet âge. Il est certain qu'ils regardaient plus haut que ce pays terrestre. En effet, la terre de Canaan n'était considérée comme ayant de la valeur que parce qu'elle était le type le symbole de notre héritage spirituel. » Et pour comprendre ce que signifie cette lettre aux Hébreux par un repos qui reste encore, qui est encore à venir, il est utile de comprendre un concept théologique que l'on connaît sous le terme d'eschatologie réalisée. C'est le deuxième point. L'eschatologie réalisée. Eschatologie, eschatos, c'est le mot grec pour dernier. Et l'eschatologie signifie les dernières choses ou faisant référence aux dernières choses. Et quand on dit que la lettre aux Hébreux contient une eschatologie réalisée, on veut dire que l'auteur souligne notre possession actuelle de certaines choses que Dieu a promises. Bien que ces bénédictions seront pleinement en notre possession à la fin de l'histoire, on commence déjà, ici-bas, à réaliser leurs bienfaits maintenant par la foi. Par exemple, on a vu comment le Seigneur Jésus-Christ a détruit Satan par sa mort sur la croix, chapitre 2, verset 14. Mais Satan n'est pas encore retiré de la scène. Il est encore un lion rugissant qui nous tourmente. Par contre, son destin est scellé. Et aujourd'hui, le croyant n'est plus esclave. Il n'est plus esclave de Satan, même s'il succombe encore à ses tentations. Mais il n'est plus esclave, il est libre. Cette réalité qui sera consommée à la fin de l'histoire, elle nous appartient maintenant, aujourd'hui. Un autre exemple d'eschatologie réalisée, c'est le repos que Dieu donne, que Dieu offre à son peuple. D'une part, on entre maintenant dans le repos par la foi, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est le verbe et qui est au présent, c'est une réalité du croyant. Il connaît le repos, on connaît la certitude du salut, on entre en communion avec Dieu. Par la foi, cette communion qui est la raison d'être de la vie éternelle. Nous vivrons dans une communion parfaite au ciel. Mais nous connaissons déjà la réalité par la foi ici-bas. Au lieu de travailler de manière futile pour chercher à obtenir le pardon de nos péchés et l'acceptation de Dieu, on se repose sur l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Même dans cette vie de labeur, de travail, d'effort, notre foi repose sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le salut qu'il a accompli. C'est ce qu'on entend par eschatologie réalisée, les choses du ciel, les choses de l'avenir qui nous sont promises par Dieu, nous sont rendues réelles maintenant par la foi. Afin que l'on puisse vivre une vie avec une force qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Et le poids, le fardeau majeur de cette lettre, c'est d'encourager les premiers croyants, d'encourager ses lecteurs avec toutes leurs épreuves, avec toutes leurs faiblesses, en leur disant que par la foi, ils peuvent être sûrs de ce qu'ils espèrent, ils peuvent être certains de ce qu'ils ne voient pas encore, comme l'auteur le dira plus loin au chapitre 11. Mais aussi important que ce point, que soit ce point, il ne faut pas l'exagérer. Israël, en Canaan, avait un avant-goût du repos de Dieu. C'est ce que signifiait la terre de la promesse. Mais ils étaient en fait entourés d'ennemis réels. Leurs besoins d'efforts, leurs combats étaient grands. Le livre de Josué, on a lu quelques premiers versets, mais quand on lit le livre en entier, c'est un livre de succès et d'échecs. C'est un livre de guerre. Ce n'est pas un livre de paix. Le repos de Canaan pointait vers un plus grand salut. Il donnait un avant-goût. Il n'était pas l'accomplissement. Cette même compréhension des choses s'applique à la vie chrétienne. Oui, il est merveilleux pour le croyant de se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. On lui porte nos fardeaux, on lui porte nos larmes, nos pleurs. On trouve en lui un vrai repos. Et ce que l'on désire réellement, c'est le jour où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus rien à craindre, où le repos promis par Dieu sera pleinement consommé dans la gloire. Le prophète Ésaïe dit de ce jour en Ésaïe 35, verset 10, « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Mais ce n'est pas encore la réalité, notre expérience actuelle. Notre vie présente se compare au voyage dans le désert, au temps de mise à l'épreuve, et non à la terre de la promesse elle-même. Comme le dit l'auteur au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Bien que l'on ait des bénédictions très réelles dans cette vie présente, ce qu'on expérimente maintenant n'est pas tout ce qu'il y a pour le croyant. Et le croyant aspire, à juste titre, à un plus grand repos. Un repos qui reste à venir. Et cela nous amène au troisième point. Parce que l'auteur utilise un terme bien particulier. Du sabbat au jour du Seigneur. Ce qui rend cette lettre aux Hébreux d'un intérêt particulier, c'est ce changement de terminologie dans ces versets. Tout au long de son exhortation, l'auteur a utilisé le mot grec « katapausis » pour l'idée de repos. Et ce terme était utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour représenter le repos dans le pays de Canaan. Au verset 4, il élargit son idée du repos en se référant au repos de Dieu dans la création, de sorte que les lecteurs vont commencer à faire le lien entre ce repos géographique en Canaan avec le repos hebdomadaire du sabbat d'Israël. Mais au verset 9, il change de mot, il change de terme pour parler du repos. Il utilise le mot apolepetai, combiné avec le mot sabbatismos, construction qui désignait le repos du jour du sabbat. Et c'est à cause de ce changement de terminologie que de nombreuses traductions comme la nôtre parlent de ce repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. De toute évidence, les lecteurs de la lettre sont dirigés vers le jour du sabbat, mais la question est de savoir comment cela s'inscrit dans la dispensation de la nouvelle alliance. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ et la fin de l'ancienne alliance, l'ordonnance du sabbat n'a plus de force. Puisque le sabbat de l'Ancien Testament, comme l'entrée de Josué dans la terre de Canaan, est un symbole qui pointe vers le plus grand sabbat qui est venu avec le Seigneur Jésus-Christ. Le sabbat de l'Ancien Testament n'a plus de force. La réalité est arrivée. Le symbole a été accompli. Le quatrième commandement, rappelez-vous, en Exode 20, verset 8, disait « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Un commentateur écrit que dans la Nouvelle Alliance, cela se réfère à cette cessation du travail dont Dieu jouit et qu'il invite les croyants à partager. C'est dépendre de Dieu pour qu'il agisse à travers nous. Et dans ce cas, l'observance du sabbat ne consiste plus à observer un jour spécial. Elle se réalise lorsque le cœur repose sur la grande promesse de Dieu d'agir à travers son peuple dans les affaires normales de la vie. Et de plus, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, écrit ceci, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la réalité, est en Christ. » Le commandement du sabbat est épuisé avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune contrainte pour le croyant aujourd'hui. On a dit tout à l'heure que cette lettre possède une eschatologie réalisée, dans laquelle une grande partie des promesses sont maintenant en possession du croyant. Quand il fait confiance, quand il a confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'eschatologie réalisée, ce n'est pas la totalité. Il y a quelque chose qui reste encore à venir. Et si le sabbat pointe vers ce qui est déjà venu en Christ, à savoir le repos de nos âmes par la foi en Jésus-Christ, il y a encore autre chose à venir. Le véritable repos dans la gloire. Nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes encore avec nos luttes. Nous sommes encore avec nos larmes, nos fardeaux. Nous attendons le jour où il n'y aura plus de larmes, plus de luttes, plus de fardeaux. En Apocalypse 14, verset 13, nous lisons ceci. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Que font les croyants devant le trône de Dieu? Ils ne sont pas oisifs, ne sont pas allongés sur une chaise longue en train de siroter je ne sais quoi. Non, ils sont devant le trône, ils servent Dieu. Ils ne cessent de chanter Dieu, de chanter, de louer l'agneau qui a été immolé, de le servir de manière parfaite, de vivre dans une communion qui est parfaite avec Dieu. Et pour anticiper ce repos, le peuple de Dieu se réunit pour adorer de Dieu, pour profiter de sa générosité, pour profiter de lui, pour expérimenter au moins de manière partielle ce repos de sabbat qui va venir. Il y a peu de choses qui sont plus profitables pour le chrétien que de mettre à part le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, faisant référence bien sûr à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette espérance vivante qu'un jour nous serons avec lui, que nous pourrons nous reposer avec lui. Il n'y a rien de plus profitable que de mettre à part un jour pour nous reposer, pour méditer, pour nous retrouver avec le peuple de Dieu, pour chanter les louanges de Dieu, pour nous encourager, pour nous édifier dans la connaissance de Dieu, pour jouir de la provision de Dieu, pour faire monter vers lui notre adoration parce qu'il en est digne. Le quatrième point, l'entrée dans le repos de Dieu. L'auteur termine ce passage avec ces deux versets, versets 10 et 11, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » À première vue, ça semble contradictoire. Le verset 10 nous dit d'entrer dans le repos de Dieu signifie se reposer de notre œuvre comme il a fait de son œuvre. Et puis le verset suivant nous dit de nous occuper à travailler pour ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Faisons les efforts pour entrer dans ce repos et ne pas tomber comme les Israélites dans le désert. En réalité, il n'y a pas de problème. Le modèle général de toute cette exhortation, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'exode du peuple d'Israël. Ils avaient quitté l'esclavage en Égypte, mais ils n'étaient pas entrés dans le pays de repos. Nous aussi, nous sommes appelés à persévérer, persévérer dans ce monde, persévérer malgré nos difficultés, non pas en se plaignant contre Dieu, en endurcissant nos cœurs contre lui, mais en nous appuyant sur lui, en nous reposant sur lui. Contrairement aux Israélites infidèles qui n'ont pas fait confiance à la provision de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à œuvrer, à agir parce que notre foi reçoit les bienfaits de l'œuvre du salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Quand on admet la réalité de notre défi actuel, et c'est la différence entre ce qu'on appelle l'eschatologie réalisée dont on a parlé et une eschatologie surréalisée qui oublie que nous sommes encore pèlerins dans ce monde, qui affirme qu'on jouit parfaitement maintenant de tout ce que Dieu a promis. Quand on réalise qu'on est encore pèlerin dans ce monde, on va puiser avec empressement dans toutes les ressources de grâce que Dieu nous fournit. Maintenant, c'est le jour du travail. C'est le jour où nous sommes appelés à œuvrer. Oui, bien sûr, nous déposons nos fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous donne son esprit pour nous aider à porter la charge. Mais le même Sauveur qui nous offre le repos, aussi le Seigneur qui commande Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Notre jour de repos final est encore à venir. C'est un jour qui nous attend dans la gloire. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé. Maintenant, c'est l'œuvre, c'est le temps où nous devons travailler, où nous sommes appelés à œuvrer. Après quoi, nous aussi, on entrera dans le repos éternel. Notre travail, maintenant, n'est pas en vain. Notre lutte, qui est née de la foi, qui est alimentée par l'Esprit de Dieu, qui agit en nous, n'est pas pour rien. On amasse un trésor. Comme l'ange l'a annoncé au prophète Daniel, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Aujourd'hui est le jour de notre peine, de notre labeur. C'est maintenant le temps des larmes, la lutte contre le péché, le témoignage auprès de ceux qui nous entourent, dont beaucoup vont nous mépriser, peut-être même nous maltraiter. Mais si on fait cela avec les yeux dirigés vers le ciel, regardant vers cette demeure qui nous est préparée, faisant confiance à notre Père céleste, lui demandant de trouver du plaisir dans nos faibles œuvres, on peut être sûr qu'il le fera. Et nous aussi, dans la gloire, nous pourrons nous reposer. Nous pourrons nous réjouir de voir comment Dieu nous a amenés à pratiquer les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous. Nous pourrons lui rendre gloire pour ce salut si parfait dont nous sommes les bénéficiaires. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a une réalité présente. Nous nous reposons sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une réalité qui est encore à venir. Notre repos éternel est encore à venir. Empressons-nous. Hâtons ce jour d'entrer dans ce repos. Désirons-le ardemment. Et poursuivons cette tâche qui nous est donnée, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui un jour nous prendra avec lui dans sa gloire. Il y a encore un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à les comprendre et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.